Je vais vous présenter brièvement Nadine Bernard-Lubeski, qui était professeure en sciences politiques ici à l'ULB et qui a travaillé sur l'histoire du mouvement de la paix en Belgique. Elle s'est intéressée plus spécifiquement à la personne d'Henri Lafontaine dans ce cadre-là, mais aussi dans d'autres facettes de ses activités, en particulier dans le cadre du Mondaneum et de cette première tentative encyclopédique, en quelque sorte, de balisage des savoirs, qui est un autre titre auquel Henri Lafontaine est plus particulièrement connu. Alors, comme Olivier, je pense, vient de vous le dire, on aura ces trois exposés qui vont se suivre. Ils feront chacun 20 à 25 minutes, et puis après cela, on pourra entamer les discussions. Je vous passe la parole sans plus tarder.
Merci. Dans le cadre de cette journée d'études organisée à l'occasion du 100e anniversaire du prix Nobel de la paix d'Henri Lafontaine, je voudrais évoquer rapidement le paysage du droit international à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, au travers des trois prix Nobel de la paix qui ont été décernés avant la Première Guerre mondiale en Belgique. Avant 1914, le comité Nobel du Parlement norvégien a octroyé sa prestigieuse récompense à l'Institut de droit international et à deux hommes politiques belges, dirigeant chacun une association destinée à organiser pacifiquement les relations internationales, à savoir Auguste Bernhardt pour l'Union interparlementaire et Henri Lafontaine pour le Bureau international de la paix. Suivant la volonté exprimée par Alfred Nobel dans son testament, le prix de la paix devait être donné à celui qui avait le plus ou le mieux contribué à la fraternité des peuples, à l'abolition ou à la réduction des armées permanentes, ainsi qu'à la promotion et à l'organisation des congrès de la paix. Avant 1914, l'interprétation de ce testament par le comité Nobel de la paix du Parlement norvégien conduisit ce dernier à privilégier très souvent les travaux relatifs au développement du droit international, à la promotion de l'arbitrage et à la limitation des armements. Le grand succès du droit international à cette époque s'explique en fait par trois facteurs. Le premier, c'est la situation politique et militaire de la Norvège qui joua un rôle très important. Indépendant depuis 1905 seulement, ce petit pays sans défense avait tout intérêt à soutenir le développement et la codification du droit international, ainsi que toutes les initiatives prônant le règlement pacifique des différends internationaux, l'arbitrage, la création d'une cour internationale d'arbitrage, ainsi que la réduction des armements. Vient ensuite la composition du comité Nobel. Ses membres appartenaient au parti Venstre. Venstre veut dire en norvégien à gauche, mais en réalité il s'agissait surtout de libéraux progressistes. Et ce parti avait lutté pour l'indépendance de la Norvège. Il s'intéressait particulièrement au développement du concept de neutralité, très important pour ce jeune État. Et les membres du comité Nobel étaient généralement aussi des juristes, professeurs de droit dans les différentes universités du pays, parfois membres de l'Institut de droit international, présidents ou membres des conférences de la paix qui ont eu lieu à La Haye en 1899 et 1907. Enfin, il y a l'influence du directeur de l'Institut Nobel norvégien qui fut aussi très importante. Cet institut qui aide les membres du comité Nobel à obtenir des informations sur les candidats proposés, joue un rôle excessivement important. Et le directeur de cet institut Nobel était aussi le secrétaire, ou est toujours le secrétaire du comité Nobel, et de 1901 à 1909, ce poste fut occupé par Christian Louis Lang. Cela dit peut-être rien à beaucoup d'entre vous, il a été aussi secrétaire de l'Union interparlementaire de 1909 à 1933, et c'est un grand spécialiste de la théorie et de la pratique de l'internationalisme. Il a publié une histoire de la doctrine pacifique et de son influence sur le développement du droit international et une monumentale histoire de l'internationalisme. Dès sa naissance au début du XIXe siècle, le mouvement de la paix a ressenti le besoin de développer, de codifier le droit international et de constituer une Cour suprême des nations. Ce besoin de parer aux lacunes du droit international se fit encore plus impérativement sentir dans la deuxième moitié du XIXe siècle, après la guerre de sécession, la guerre franco-prussienne, l'arbitrage de Genève de l'Alabama, l'accroissement des relations politiques, économiques, intellectuelles entre les nations, le développement du commerce et des transports maritimes, toutes sortes de questions qui pouvaient soulever une multitude de problèmes, source d'éventuels conflits. Le manque de règles précises ou généralement acceptées explique le courant qui se développa tant aux États-Unis qu'en Europe en faveur de l'étude de la codification des lois qui régissent les relations internationales. Des juristes pensèrent alors pouvoir éliminer ou du moins diminuer les conflits entre nations par la création d'un mouvement scientifique international dans le domaine du droit. Ce besoin de régulariser la conduite des États en temps de paix comme en temps de guerre fit naître de multiples initiatives. Ce fut dans ce contexte qu'un grand juriste belge, homme politique libéral, Gustave Rollin-Jacquemas, proposa avec d'autres spécialistes du droit des gens la création d'un groupe restreint qui constituerait une sorte d'académie du droit international. L'Institut de droit international vit ainsi le jour à Gand, en septembre 1873, juste un an après la sentence arbitrale relative à l'Alabama. Ses nombreuses activités et publications eurent un impact très important sur la vie internationale. L'Institut espérait aider à généraliser l'emploi de l'arbitrage dans les conflits entre les États. Aussi élabora-t-il un code de procédure arbitrale dont les principales règles devinrent, après la conférence de la paix de La Haye de 1899, une partie du droit public des nations. Et en attendant de pouvoir supprimer les conflits, les juristes estimaient qu'il fallait essayer d'humaniser la guerre en restreignant son exercice dans des règles strictes. L'Institut adopta alors un manuel des lois de la guerre sur terre à la section d'Oxford de 1880, dont les principes furent aussi consacrés lors des deux conférences de la paix de La Haye. Ce manuel fut complété, mais plus tard, en 1913, par un manuel de la guerre maritime. À côté des lois de la guerre, l'Institut s'occupa aussi de l'harmonisation et de l'uniformisation de certaines questions de droit international privé, de droit commercial ou de droit maritime. Pour l'ensemble de ces travaux, cette académie indépendante des gouvernements, composée d'éminents spécialistes du droit international et qui souhaitait devenir l'organe de la conscience juridique du monde civilisé, ainsi que l'indique le premier article de ses statuts, reçu le 10 décembre 1904, le prix Nobel de la paix. 5 ans plus tard, en 1909, un autre prix Nobel de la paix fut attribué à Auguste Bernhardt. C'était un homme politique catholique, plusieurs fois ministre, chef de cabinet du roi Léopold II pendant 10 ans, ministre d'État, président de la Chambre des représentants, membre de l'Institut de droit international, membre de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, membre puis président de l'Union interparlementaire. Le comité Nobel, en lui accordant le prix de la paix, récompensait sa carrière politique et diplomatique ainsi que les efforts qu'il avait déployés pour la promotion du droit international, de l'arbitrage obligatoire et de la limitation des armements au sein de l'Union interparlementaire et lors des deux conférences de la paix de La Haye. Après avoir quitté le gouvernement en 1894, il consacra les 18 dernières années de sa vie au développement des moyens pacifiques de règlement des conflits. Il devint membre de l'Union interparlementaire dès la constitution en Belgique du groupe de l'Union, mais il présida celle-ci jusqu'à son décès en 1912 et il joua un rôle de toute grande importance. Il participa activement à tous les travaux et aux conférences de l'Union qui voulaient développer le droit international, généraliser le recours à l'arbitrage international, créer une cour internationale d'arbitrage, préciser les devoirs des neutres, limiter les armements et réunir les conférences de la paix de la haie. En matière militaire, Bernard se fit toujours l'avocat de la limitation des armements, une cause très difficile à défendre à cette époque très nationaliste et militariste. En 1809, lors de la première conférence de la paix, il fut président de la première commission relative à la limitation des armements. Un honneur qu'aucun des États participants ne voulait assumer à cause de l'échec assuré des travaux. Le gouvernement belge était opposé de son côté à ce point du programme russe. Il voulait garder une totale liberté en cette matière et il comptait bien sur l'opposition des autres grands États pour ne pas apparaître comme un opposant à ce point du programme du tsar. C'est ce qui arriva en réalité. Il y eut une impossibilité d'arriver à une entente et le résultat fut, il n'y eut pas de vote, seulement un constat de cette impossibilité en la matière. Bernard continua toujours à s'intéresser à ce problème militaire et à l'automne 1912, peu de jours avant son décès, il participe en septembre à une conférence de l'Union à Genève et il défend une proposition de prohibition de la guerre dans les airs. En matière d'arbitrage, la question fut toujours de savoir si le recours à ce mode de règlement des conflits internationaux devait être obligatoire ou quel devait être aussi son champ d'application. En 1906, lors de la conférence de Londres, l'Union interparlementaire insista pour que le programme de la seconde conférence de la Haye de 1907 comprenne la question de l'arbitrage obligatoire. Dans la capitale britannique, Bernard soutint et obtint le vote d'un traité modèle d'arbitrage. C'était une proposition à laquelle il avait beaucoup travaillé et qui préconisait l'arbitrage obligatoire sans réserve et sans restriction pour toute une série de différents répertoriés par une liste. Ce traité d'arbitrage modèle fut recommandé à la seconde conférence de la Haye, mais ceci provoqua un incident diplomatique. En effet, Auguste Bernard était le chef de la délégation belge, mais atteint d'une grave maladie, il n'avait pu participer aux réunions préparatoires au sein du ministère des Affaires étrangères où les instructions étaient données aux différents plénipotentiaires. Et ce n'est qu'arrivé dans la capitale hollandaise qu'il s'est rendu compte que les instructions du ministère des Affaires étrangères étaient en complète contradiction avec sa position et notamment la position qu'il avait défendue l'année précédente lors du congrès de Londres. Alors Bernard pensa à se démettre de ses fonctions, mais par déférence pour l'opinion de cet ancien ministre, chef du cabinet, en raison de la place éminente qu'il occupait dans le mouvement de la paix européen, ainsi qu'à cause du rôle qu'il avait déjà joué à la Haye en 1899, le ministère des Affaires étrangères consentit à ce qu'il s'abstienne de prendre part au vote et que les motifs de cette abstention soient connus. La mission de représenter la Belgique fut alors déléguée aux autres plénipotentiaires. Que s'était-il passé en réalité? En 1907, le ministère des Affaires étrangères avait rédigé des instructions qui étaient favorables à l'arbitrage obligatoire pour toute une série de cas. C'était des cas très mineurs, pas tellement importants. Et le roi Léopold II a voulu connaître le contenu de ces instructions. Et voulant protéger son entreprise coloniale, il va s'opposer à l'arbitrage obligatoire dans les cas différents d'ordre juridique et relatif à l'interprétation des traités existants entre plusieurs puissances signataires. Le souverain redoutait que les clauses de l'acte de Berlin ou de l'acte de Bruxelles puissent être soumises à une décision interprétative de la Cour de la Haye par une des puissances signataires de ces actes et sans adhésion préalable de toutes les autres puissances intéressées. Alors, il y eut un vote sur ce traité modèle et sur l'arbitrage obligatoire. Seulement 32 États sur 44 votèrent le projet de traité et la conférence se borna à une déclaration unanime en faveur de ce principe de l'arbitrage obligatoire. Ce fut cet homme qui n'avait pas craint d'affronter son gouvernement pour le respect de ses convictions qui reçut l'année suivante le prix Nobel de la paix. En 1913, et pour la troisième fois, un candidat belge fut à nouveau à l'honneur à Christiana. L'élu était, il est vrai, un extraordinaire représentant du mouvement populaire et organisé de la paix. Il était président du Bureau international de la paix, membre très actif de l'Union interparlementaire. Il était, pour le comité Nobel, un candidat idéal, un juriste, partisan de la paix depuis de nombreuses années, un défenseur de l'arbitrage obligatoire et de la constitution de la Cour internationale d'arbitrage, un internationaliste visionnaire, un sénateur socialiste défendant au sein de son parti et du mouvement socialiste international le règlement pacifique des différends internationaux. Toute la vie de cet homme a été consacrée à essayer de modifier la culture nationaliste, impérialiste et militariste dominante de son époque par des moyens pacifiques faisant largement appel à l'éducation, à la propagande, la création de multiples sociétés et instituts internationaux et en luttant sans cesse pour substituer le règne du droit à l'anarchie existant dans les relations internationales. Sur le plan national, il fut dès 1889, en tant que secrétaire général de la section belge de la Fédération internationale de l'arbitrage et de la paix, la cheville ouvrière du mouvement de la paix en Belgique. Sans jamais se décourager, il entreprit de nombreuses actions de propagande en faveur de la généralisation du recours obligatoire à l'arbitrage, la création d'un tribunal, la codification du droit des gens, la réduction des armements. Et chaque année, ce sénateur socialiste utilisa la tribune que lui offrait le Sénat lors de la discussion du budget des affaires étrangères pour exposer ses revendications en matière de règlement pacifique des relations internationales. Sur le plan international, ce juriste joua un rôle prééminent au sein du Bureau international de la paix, point de ralliement des groupes de la paix du monde entier installés à Berne à partir de 1891. De 1907 à sa mort en 1943, il en assura la présidence. Et tant dans les congrès internationaux de la paix organisés par le Bureau international de la paix que dans les publications de ce bureau, il demanda une rapide adaptation du droit aux nouvelles réalités internationales et il travailla inlassablement au respect du droit dans des questions épineuses résultant des tensions internationales. Partisan de l'arbitrage obligatoire, il présenta en 1894, lors du Congrès universel de la paix d'Anvers, un projet de traité d'arbitrage international obligatoire avec une cour permanente d'arbitrage. Malheureusement, le BIP, le Bureau international de la paix, avait des moyens très limités, qui ne lui permettait pas tellement de peser sur la conduite des États. Sa force était toute morale et il incarnait une espèce de conscience du bien universel qui devait contribuer à faire évoluer les mentalités sur les causes et les conséquences désastreuses des guerres. Henri Lafontaine fut aussi un membre très actif de l'Union interparlementaire qu'il considérait comme l'embryon d'un parlement universel. Il fit paraître à Berne en 1902 un ouvrage intitulé « Pasicrisi internationale, histoire documentaire des arbitrages internationaux » complété 2 ans plus tard par un essai de biographie de la paix et de l'arbitrage. Toujours, il essaya de faire condamner la guerre de conquête. À la suite de la guerre italo-turque de 1911, il obtint le vote lors du congrès de Genève de l'Union interparlementaire de septembre 1912, moins 3 voix, celle des Italiens, naturellement. Il obtint le vote d'une déclaration générale de principe au sujet des devoirs sacrés des amis de la paix lors d'une guerre de conquête. Personne n'a le droit de se faire justice par lui-même. Aucune nation ne peut déclarer la guerre à une autre. Tout conflit entre nations doit être réglé par le droit. L'indépendance de toute nation est inviolable. Il n'existe aucun droit légal de conquête. Enfin, il fut aussi un internationaliste voulant tisser des liens entre les peuples en établissant un vaste réseau d'organismes internationaux qui augmenterait l'interdépendance des États. Ce visionnaire croyait en la possibilité de créer une organisation mondiale basée sur une charte universelle dotée d'un parlement dont tous les membres auraient des droits égaux, d'un secrétariat permanent et surtout d'un système juridique complet, une Cour internationale de justice avec un système de sanctions allant jusqu'à une action militaire collective. Ce citoyen du monde, bravant l'hostilité d'une grande partie de ses contemporains indifférents à son combat, qu'il qualifiait d'utopiste quand ce n'était pas d'antipatriote, défendit sans relâche et avec acharnement ses idées en faveur du règlement pacifique des différends internationaux. Il fut le premier socialiste à recevoir le prix Nobel de la paix, un véritable exploit dans ce monde international très conservateur. Merci.